le journal présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, un mini-sommet européen pour afficher la détermination des 27 à lutter contre le terrorisme. En France, le ministre de l'Intérieur, 5 ans après les attentats du 13 novembre, brandit une double menace, l'une exogène et l'autre plus inquiétante encore endogène, décryptage de Pierre Neveu. Le départ du 10 Downing Street, annoncé ce soir de l'éminence grise et fort contestée de Boris Johnson, David Cummings quitte l'antre du pouvoir après bien des controverses. Les Nations Unies, qui disent redouter que le conflit entre les forces gouvernementales éthiopiennes et celles de l'État du Tigré dans le nord du pays échappe à tout contrôle et craignent que des crimes de guerre aient été déjà commis. Invité de cette édition, Éloi Fiquet, anthropologue, historien et maître de conférences à l'EHESS. La protection des frontières extérieures de l'Europe doit être renforcée de façon significative, en particulier pour des raisons de sécurité, extrait de la déclaration du ministre allemand de l'Intérieur, Horst Seehofer, au terme d'une réunion des 27 ministres de l'Intérieur de l'Union européenne. Extrait qui reflète parfaitement les préoccupations des États soumis au terrorisme, ainsi qu'à des spécificités domestiques telles qu'il faille, et c'est l'un des objectifs affichés, aboutir à une législation européenne visant à faire retirer dans l'heure les contenus à caractère terroriste en ligne. Angélique Boin a suivi pour nous ce mini-sommet européen.
Nous ne voulons pas combattre une religion, mais lutter contre tous les extrémistes violents et radicaux, précisent les 27 dans leur déclaration. Ils s'engagent à mieux appliquer leur législation pour lutter par exemple contre les armes à feu et traquer le financement du terrorisme. Leurs autorités doivent aussi savoir qui entre dans l'espace Schengen et qui y voyage, est-il écrit. Or, trop souvent, on ne sait pas, a regretté lors du point de presse Ylva Johansson, la commissaire européenne en charge des affaires intérieures.
Dans une étude de Frontex l'an dernier, il est ressorti que 22% des personnes qui sont entrées dans l'espace n'ont pas été enregistrées dans le système d'information Schengen. Et donc, très clairement, il y a une marge de progression.
Les 27 vont donc renforcer leurs frontières extérieures et mieux organiser avec les pays tiers les expulsions des personnes qui représentent une menace, tout en appelant à une meilleure intégration des migrants qui font, disent-ils, un effort actif pour s'intégrer. Ils insistent également sur l'importance de lutter contre les contenus terroristes en ligne. Leur objectif est de s'accorder au plus vite sur un nouvel outil qui permettrait de signaler ou suspendre en moins d'une heure des contenus repérés sur la toile. Les négociations en cours sur ce sujet à Bruxelles avec le Parlement pourraient aboutir en début de semaine prochaine.
N'oublions jamais celles et ceux qui nous ont quittés ce soir de novembre 2015. Emmanuel Macron, le chef de l'État, vient de publier un texte d'hommage aux victimes des attentats du 13 novembre. Texte qui s'achève par un appel à ne rien céder. Ce texte du président de la République vient parachever une journée d'hommage nécessairement singulière en raison de la pandémie, bien sûr, mais avant tout en raison des actes terroristes qui ont endeuillé le pays tout à fait récemment et de facto d'un niveau d'alerte maximale alimenté, conforté, justifié par le ministre de l'Intérieur, Pierre Neveu.
Et en ce 13 novembre, le ministre de l'Intérieur le rappelle, le risque terroriste aujourd'hui est très élevé. Et Gérald Darmanin de préciser la double menace exogène, comme en 2015 avec des terroristes structurés en commando, envoyés pour commettre des attentats sur le sol français. Et puis il y a une menace endogène, plus forte selon le ministre, comme cela s'est manifesté, vous l'avez dit, à Nice, à Conflans-Sainte-Honorine, et même devant les locaux, les anciens locaux de Charlie Hebdo, avec le passage à l'acte d'individus isolés, radicalisés, qui n'étaient pas connus des services de police, ni même fichés à l'antiterrorisme. Une mutation de la menace terroriste soulignée ce matin par les patrons du renseignement français. Ces trois attentats en quelques semaines place le ministre Darmanin en première ligne sur les questions de sécurité intérieure, de contrôle aux frontières, d'asile et d'immigration. Pressé de prendre des mesures d'exception par l'opposition, l'exécutif a décidé de répondre avec fermeté. D'abord, en accélérant les demandes d'expulsion des étrangers radicalisés. En ce sens, Gérald Darmanin a récemment effectué des déplacements au Maroc, en Tunisie, en Algérie et même en Russie. Et puis, il y a une volonté politique de s'attaquer à l'islam radical. C'est l'objet du futur projet de loi sur le séparatisme qui sera présenté en Conseil des ministres début décembre, avec comme priorité la lutte contre la propagande terroriste et les discours de haine sur Internet. C'était d'ailleurs ce que portait la députée Laetitia Avia dans sa proposition de loi, texte qui, rappelons-le, a été retoqué par le Conseil constitutionnel.
Merci à vous, Pierre Neveu. Il y a quelque temps, nous étions, et cela nous a pu être reproché, au chevet et au plus près du décompte des bulletins de vote de l'élection américaine. Eh bien, selon plusieurs médias américains, le démocrate Joe Biden a finalement remporté 306 grands électeurs contre 232 pour son rival républicain Donald Trump. Ambiance fin de règne à la Maison-Blanche et fin d'une rupture annoncée au 10 Downing Street à Londres. L'antre du pouvoir que vient de quitter s'est désormais acté le conseiller le plus influent de Boris Johnson, épilogue d'une crise rythmée par bien des querelles. Et c'est loin d'être accessoire, Richard Place, car avec ce départ, la politique du Royaume-Uni pourrait bien changer.
Les députés de la majorité et la plupart des ministres se frottent les mains. Cummings, c'était le conseiller omnipotent qui ne rend de compte à personne, hormis au Premier ministre, et jusqu'ici Boris Johnson lui a toujours prêté une oreille attentive, voire obéissante. Son départ, la fin de cette influence, les conservateurs du Parlement veulent y voir un retour à un fonctionnement plus normal, où leur avis pèse réellement, pas seulement là pour entériner des décisions prises dans un bureau à 3 ou 4. Cummings, c'est celui qui veut renverser la table, rompre constamment avec les habitudes, bousculer l'establishment. Sa plus grande victoire, le Brexit, l'a mené là où il était, c'est aussi son entêtement qui le conduit aujourd'hui vers la sortie. Les négociations avec l'Europe avancent lentement et Boris Johnson se résout sans doute à progresser désormais vers un accord. Sortir avec un no deal, ce serait catastrophique pour les deux parties, mais surtout pour le Royaume-Uni. Là encore, la politique Cummings, c'est celle du tout ou rien. Il quitte donc Downing Street ce soir un carton rempli de ses effets personnels dans les mains comme un salarié lambda qui serait licencié, mais c'est bien un Premier ministre bis qui s'en va.
Richard Place, envoyé spécial permanent à Londres. En Biélorussie, la disparition d'un manifestant il y a 2 jours alimente la colère intacte depuis le 9 août dernier et la réélection d'Alexandre Loukachenko, d'une opposition confrontée à la violence des forces de l'ordre. La victime s'appelait Roman Boudarenko, était âgé de 31 ans et Roman a été arrêté après des échauffourées avec des hommes en civil qui tentait d'arracher des rubans aux couleurs du mouvement d'opposition contre Loukachenko. Récit de Marie-Pierre Véraud, avec sur place Théodore Katim.
Des fleurs, des bougies, des slogans aussi sur cette place emblématique de l'opposition, Pereman Square, la place du changement. C'est là que Roman Bondarenko, 31 ans, artiste peintre, a été brutalement arrêté par les forces de sécurité mercredi soir, alors qu'il tentait de s'interposer quand des individus ont entrepris d'arracher les rubans rouges et blancs, symbole de l'opposition au dictateur Belarus Loukachenko. Roman est mort le lendemain de lésions cérébrales. Macha le connaissait un peu. Il était doué pour le dessin, dit-elle, et chaque fois que l'on organisait quelque chose pour les enfants, il venait leur apprendre à tenir un crayon. Il était gentil. Ce n'était pas un provocateur, je tiens à le dire, c'était un homme pacifique. Sur un papier, un enfant a écrit « Roman, reviens, je veux que tu m'apprennes à dessiner ». L'émotion est très vive, tristesse, colère. Le portrait de Roman brandi dans des rassemblements près d'universités, d'usines, d'hôpitaux. Certains sont en noir, signe de deuil, sous les klaxons de soutien des automobilistes.
Nous sommes déterminés à continuer. Nous ne sommes pas des soldats, ni des combattants professionnels, ou des révolutionnaires, ni des amoureux de la révolution. Si nous le faisons, c'est parce que nous devons le faire.
Un nouveau martyr, un héros de la nation pour l'opposante en exil Tsikhanouskaya. C'est peut-être l'étincelle qui ranimera la flamme des manifestations contre le pouvoir qui se déroule désormais chaque dimanche. C'est du moins ce que veut croire Sergueï.
Cela peut être un tournant. On pourrait voir beaucoup plus de monde ce dimanche. Mais il se pourrait aussi que l'on soit peu nombreux, car tout le monde a très peur. Personne ne veut mourir. Et on voit à quel point il est facile de mourir ici.
La foule scande des slogans « à son pays », « contre la police ». Tous ces témoignages ont été recueillis discrètement et les noms ont été changés.
Les internautes du Sénégal étaient appelés ce vendredi à un deuil virtuel en hommage aux migrants clandestins morts en mer sur le chemin de l'Europe. L'Organisation internationale des migrations a fait état de 140 morts au cours d'un seul naufrage au large du Sénégal fin octobre, bilan contesté par le gouvernement sénégalais. Les Nations Unies, qui disent redouter que le conflit entre les forces gouvernementales éthiopiennes et celles de l'État du Tigré dans le nord du pays échappe à tout contrôle et craignent que des crimes de guerre aient déjà été commis. Plus de 14 500 déplacés ont fui les combats entre l'armée éthiopienne et les forces du Tigré et sont arrivés au Soudan depuis le début du mois. Aujourd'hui, Debret Seyon Gebre Michael, le président régional du Tigré, déclare « Ce qui crône une victoire prochaine de l'armée fédérale éthiopienne au Tigré rêve éveillé » et d'ajouter que le Tigré sera un cimetière pour les envahisseurs. Fin de citation. Parce que les accès aux zones de guerre sont cadenassés, il est délicat de commenter les accusations de massacres et de bombardements de civils émanant d'un camp comme de l'autre. Nous sommes en ligne avec notre invité Éloi Fiquet, anthropologue, historien et maître de conférence à l'EHESS. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Un premier commentaire peut-être sur ces dernières déclarations du président du Tigré.
C'est difficile à évaluer pour l'instant. Il s'agit d'un discours guerrier, d'un discours de mobilisation de ses troupes, de sa population. C'est le conflit en cours qui dira quel est l'état réel des forces impliquées, les capacités combatives. C'est vrai qu'il y a eu ces derniers mois des échanges d'invectives, de menaces entre le gouvernement fédéral d'Addis Abeba et le gouvernement régional du Tigray, et il est assez difficile de faire la part des choses objectivement entre ce que ces discours proclament ou revendiquent et la réalité qu'il y a derrière.
Éloi Fiquet, que dire de ces mouvements de milices communautaires qui, semblerait-il, sont très actifs ?
Alors, il y a donc un conflit qui implique des forces armées conventionnelles du côté gouvernemental ou, disons, paraconventionnelles du côté régional, donc des troupes conventionnelles qui auraient rejoint le gouvernement régional du Tigray. Mais par ailleurs, il semble que des milices locales ou des forces de police régionales soient aussi impliquées dans des mobilisations qui impliquent un réveil de haine communautaire qui se développe depuis plusieurs années, notamment autour de frontières internes entre des régions qui ont été conçues sur une base ethnique et linguistique. Et le problème d'objectiver de façon ethnique des frontières, c'est peut-être de négliger le fait que ce sont des zones qui sont historiquement des zones d'indétermination, de mélange, des zones de refuge de populations marginales, des zones d'isolement spirituel pour des religieux. Et donc aujourd'hui, ces zones font l'objet d'une âpre compétition. C'est aussi lié à une croissance démographique, à une rareté des terres qui font de ces zones autrefois isolées des zones aujourd'hui cruciales. Et on peut constater qu'au cours des dernières années, alors que ces revendications et les vindictes qui vont avec aller croissant, des négociations, des pourparlers, des formes d'innovation politique n'ont pas su être trouvées dans les dispositifs du fédéralisme éthiopien. C'est pourquoi cette crise revêt une dimension de crise politique, où dans une période de reconfiguration des équilibres politiques, des partis représentant les différentes populations, la façon de coordonner ces équilibres, de les définir institutionnellement, d'envisager des zones de souplesse, de compromis, tout cela a été finalement assez peu débattu, renouvelé.
Dernier point, Éloi Fiquet, quel soutien de la population Abiy Ahmed, à quel soutien peut-il prétendre ?
Disons que Abiy Ahmed a suscité beaucoup d'espoir au moment de sa venue au pouvoir, à travers à la fois une volonté de réconciliation des tensions internes, à travers des processus de paix engagés avec les pays voisins, notamment l'Érythrée, mais aussi une pacification de la question du Nil avec l'Égypte. Donc il y a eu beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'espoir, autour de ce personnage politique, du parti politique qu'il a créé. Néanmoins, les échéances électorales ayant été repoussées, ces débats politiques n'ont pas pu avoir lieu pleinement. Alors c'est aujourd'hui, à travers la mobilisation guerrière, qu'il peut y avoir une forme ou de remobilisation d'un esprit nationaliste unitaire à l'échelle éthiopienne. Néanmoins, est-ce que c'est cette forme de mobilisation qui va apporter les réponses nécessaires à restaurer des relations équilibrées entre toutes les régions ? On peut se questionner à ce propos.
Merci à vous, Éloi Fiquet, anthropologue, historien et maître de conférence à l'EHESS, d'avoir accepté notre invitation. Le temps de demain samedi, en quelques mots, perturbé du nord-ouest au nord, mais calme et plus ensoleillé ailleurs. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau, à la technique Somalia Dabesh.